Il est 13h dans le studio de Radio Ndikiluka, c'est l'heure de suivre la grande édition du journal, une présentation de Eda Lotine Diko. Eda, bonjour.
Bonjour Marcel Mbakoulé, bienvenue à tous dans cette édition. Une partie des habitants de la Vakaga dans le nord-est centrafricain tire la sonnette d'alarme. Ces populations se disent victimes de menaces et de violences de la part de certains éléments de l'armée nationale et leurs alliés. Au sommaire également, la réaction du ministère de la Défense. Le département dénonce le survol jeudi dernier des positions des forces armées centrafricaines à Moyenne-Sido par un avion militaire non identifié. Et puis la campagne de vaccination contre la poliomyélite et le Covid-19 lancée le week-end dernier a pris fin officiellement hier. Cependant, elle se poursuit encore dans certains centres de santé. Athlétisme, démarrage aujourd'hui du championnat d'Afrique des seniors en île Maurice. Deux Centrafricains prennent part à cette compétition. Il s'agit de Belvia Boifini en 5000 mètres et Franck Mboto en 800 mètres.
Que se passe-t-il dans une partie du nord-est de la République centrafricaine? Des habitants de la Vakaga se disent victimes de violences.
Des violences perpétrées selon eux par des éléments de l'armée nationale et leurs alliés. Ils citent notamment les menaces, les intimidations et la confiscation de leurs biens. Radio Ndikiluka a enquêté sur ces témoignages. Armando Yangedi.
Selon les informations recueillies par Radio Ndikiluka et recoupées auprès de plusieurs sources, ces faits se sont déroulés et se dérouleraient encore dans les localités de Sekikide, Gordil et Wanja dans la préfecture de la Vakaga. Des habitants locaux expliquent avoir fait l'objet de menaces, d'intimidations et leurs biens emportés de force par ces militaires. Maïmouna, une des victimes, témoigne.
Ils sont venus à Gordil pour faire des tapages. Ils ont cassé des portes des maisons des particuliers pour tout emporter. Ils ont volé des motos des jeunes qui ont vendu leur or pour en acheter. Ils les ont tous dépouillés. Ils ont même tué 7 personnes dans le chantier. Ils ont intercepté un camion de convoi qui a transporté les objets pillés. Oui, ils sont en train de vendre à Ndélé en ce moment.
Ndélé et Birao sont situés dans la région du nord-est de Centrafrique. À Ndélé, plusieurs sources confirment la vente d'objets, dont des motos, téléphones portables et chaises plastiques, par des éléments des forces de défense et leurs alliés. Cependant, gagnés par la peur, personne n'ose témoigner au micro. Contacté par Radio Ndikiluka, le sultan maire de Ndélé, Senoussi Ibrahim, dit ne pas avoir les preuves de ces allégations.
Dommage que je n'ai vu aucun endroit où les FAKA ou les Russes se sont regroupés ou sont en train de faire ce marché là, parce que je suis à Ndélé, si les FAKA et les Russes sont en train de vendre des motos et des chaises, même dans la ville, au marché, je serai au courant, mais dommage que je ne suis pas au courant de cette information. Donc, ce sont des informations non avérées.
Certaines autorités locales de la préfecture de la Vakaga confirment ces bavures, mais se réservent de témoigner car la plupart affirment ne pas être protégées. Elles appellent Bangui à vite soulager la peine de la population.
Puisque nous parlons de l'armée nationale, le ministère de la Défense dénonce la violation de l'espace aérien centrafricain par un avion militaire.
Selon un communiqué du département de la Défense nationale, un avion militaire de couleur grise, mais non identifié, a survolé à basse altitude le 2 juin dernier des positions des forces armées centrafricaines à Moyenne-Sido dans le nord. Le ministère dénonce un acte d'agression et menace de riposter si l'appareil venait à violer de nouveau l'espace aérien de la République centrafricaine.
On cap sur la localité de Ndjou dans la Kémo où la population dénonce des exactions des anti-Balaka.
Selon les témoignages recueillis auprès des habitants du village Galabadja situé à 60 km de Ndjoukou, ces hommes armés volent, torturent, séquestrent et pillent les populations et leurs biens. Gabriel, un habitant de Galabadja en séjour à Bangui, sollicite une réaction rapide du gouvernement pour faire régner la quiétude. Il est interrogé par Igor Djeskensinapai.
Quand ils ont des armes et ils ont fait des exactions, menaces, tueries, et à cause de ça, l'école ne marche même pas. Auparavant, les gendarmes sont en place et les FAKA aussi. Concernant l'événement des CPC-là, tous ces gens sont répartis à Bangui. Et là où je vous parle, c'est eux-mêmes qui sont habilités de taper les gens et faire tout ce qu'ils ont voulu faire. Les baleinières des HR, comme ça, voulaient monter à Kwango. Ils sont arrêtés ça. Et l'une de ces baleinières qui sont à Kwango pour repartir à Bangui, ils ont arrêté, ils sont trois baleinières, faire des tapages, fouiller les gens, même des femmes. Ils ont emporté l'une de ces baleinières-là. Ils ont demandé 2 millions pour que le propriétaire baleinière plus donne 2 millions, c'est ça qu'il faut libérer ces personnes. Et c'est pour cela que nous sommes venus dire au gouvernement pourquoi Ndjukou sont abandonnés dans la main de ce petit groupe armé comme ça. Parce qu'on ne peut pas parler, on ne peut pas faire de business, on ne peut pas cultiver même le champ. Et à cause de ça que nous sommes venus à Bangui, là où je vous parle là, en répartition là-bas, je ne sais pas. Si vous voulez me tuer, il veut me tuer. Parce que je m'engage à venir décider et parler à toute personne qui sont à Bangui. Et le gouvernement aussi.
Chapitre justice, le procès des crimes de Koundili et Lemouna se poursuit à la Cour pénale spéciale ici à Bangui.
Les trois accusés, notamment Issa Saleh Adoum alias Bozizé, Ousmane Yaouba et Mama Tahir, comparaissent encore devant les juges. Le procès se poursuit aujourd'hui avec l'audition des témoins. Hier, un témoin a raconté ce qu'il s'est passé en mettant en cause les trois accusés. Une version validée par Issa Saleh affirmant que ces deux co-accusés sont bel et bien impliqués dans ce massacre qui a fait près de 40 morts en mai 2019. Alors que ceux-ci niaient leur responsabilité. Cette confusion parmi les accusés donne de l'espoir à la partie civile, mais ces témoignages ne sont pas encore commentés par la défense.
Dans le procès se poursuit à la Cour pénale spéciale. Cependant, les victimes de Koundili et Lumuna suivent ce procès dans la peur.
Peur à cause de la présence des groupes armés qui sont encore actifs dans la région. Conséquence, elles sont réticentes à parler de leur vécu et attentes sur les ondes. Jean-Fernand Koïna s'est entretenu avec des ressortissants de Koundili et Lemouna lors de son passage fin mai dernier à Bukaranga.
Malgré la comparution de présumés auteurs des crimes de Koundili et Lemouna devant la Cour pénale spéciale à Bangui, les victimes qui suivent chaque détail du procès ne sont pas libres. Elles sont partagées entre cette volonté de connaître les causes de leur malheur en 2019 d'une part et d'autre part la crainte de représailles à cause des trois heures qui sont présents dans la région. Aborder le sujet avec les ressortissants de Koundili et Lemouna suscite de frémissements pour eux. C'est le cas de Armand qui nous fait un constat de peur qui continue d'animer la population. Nous sommes conscients de la situation, mais là où nous sommes, nous vivons encore avec les rebelles qui ne sont pas encore désarmés. Nous voulons bien que la justice passe, mais le contraste entre l'insécurité et la justice continue d'affecter le quotidien des victimes ici, explique Armand. Il poursuit en ces termes. Il est important pour les uns et les autres de ne pas s'aventurer sur ce terrain parce qu'ici, nous continuons de cohabiter avec nos bourreaux, conclut-il. Armand n'est pas le seul à évoquer cette situation de désespoir pour les victimes. Les mouvements des rebelles des 3R sont signalés dans la région de Koundili, Lemouna et Loura au moment où comparaissent les principaux suspects, dont les membres des 3R, devant la Cour pénale spéciale. Cette situation remet sur la table la question de la sécurisation des victimes et la protection des témoins. Si les audiences de la Cour pénale spéciale sont un début de soulagement, il n'en demeure pas moins que les victimes restent partagées entre justice et peur de représailles.
Santé dans ce journal, la campagne de vaccination contre la poliomyélite et le Covid-19 lancé le week-end dernier en République centrafricaine a pris fin hier.
Cependant, dans certains centres, elle se poursuit. Objectif, atteindre plus de personnes. C'est l'exemple du centre de santé de Bédé dans le 8e arrondissement de Bangui. Reportage de Maxime Joël Lalaï.
Dans le hall du centre de santé de Bédé, des mamans font la queue avec leurs enfants. Assises sur des banquettes, elles sont toutes impatientes car chacune veut faire vacciner son enfant avant la fin de la campagne. Gisèle Lejezé porte dans ses bras son bébé âgé de 6 mois.
Je suis contente parce qu'on vient de vacciner mon enfant pour éviter qu'il soit atteint. Aux femmes qui continuent de résister, je leur demande d'amener leurs enfants pour les faire vacciner car la poliomyélite rend infirme.
La stratégie adoptée pour cette campagne est le porte-à-porte. Mais le vaccinateur n'arrive pas à rappeler toutes les maisons. Au quartier des Dengue 3 dans le 8e arrondissement, Alpha Max Sakoma s'inquiète car son garçon d'un an n'est pas encore vacciné.
On s'inquiète parce que si l'équipe de vaccination n'arrive pas chez nous, notre fils sera exposé à l'épidémie. Au cas contraire, nous allons amener l'enfant à l'hôpital car on ne sait jamais.
Malgré l'engouement de la population pour cette vaccination dans les 4e et 8e arrondissements, l'objectif n'est pas encore atteint. Docteur Ozias Bami, médecin chef du district sanitaire de Bangui 3.
Dans le 4e arrondissement, nous avons vacciné les enfants de 0 à 59 mois, 22 932 enfants. avec une couverture de 4,8%. Et dans le 8e arrondissement, on a vacciné 15 624 enfants avec une couverture de 64%. Aujourd'hui, le district a une couverture de 77%, alors que ce n'est pas recommandé par le ministère de la Santé. On va faire le ratissage dans l'ensemble des arrondissements, c'est-à-dire 4e et 8e, pour que l'objectif souhaité soit atteint dans notre district. Covid-19, malgré la sensibilisation qui a été faite, mais il y a eu faible adhésion de la population.
Le gouvernement a envisagé de vacciner au moins 1 300 000 enfants sur l'ensemble du territoire centrafricain. Après cette campagne de 4 jours, les activités de vaccination vont se poursuivre dans toutes les formations sanitaires du pays.
La suite de cette édition avec la suite du Festival international du conte et de l'oralité Figo à Bangui.
Ces activités culturelles vont durer 7 jours. Elles ont été lancées hier au lycée de Miskine dans le 5e arrondissement. À l'occasion de différentes manifestations sont prévues dans des établissements scolaires et centres culturels. 9 artistes conteurs nationaux et internationaux, dont 5 femmes, amuseront le public. Francis Claver-Cala a pris part hier au lancement.
Le papa sans réfléchir, il $150,000.
En présence d'une foule joyeuse composée d'élèves, de responsables du lycée de Miskine, des autorités publiques, la comédienne ivoirienne Amoy Kofi ouvre le bal avec un récit comique intitulé 8 filles.
Il fait tout et puis il prend son portable et dit voilà, je suis prêt, vous les 8 filles là, venez. Vous les 8 filles là, vous qui êtes dans mon portable là, venez, une à une. Je vais vous montrer ce que je sais faire.
Le conte raconte en effet l'histoire d'un homme qui a acheté un téléphone portable et a confondu la connexion Wi-Fi avec 8 filles. Leslie Yassibingi, élève au lycée technique de Bangui, retient un conseil de ce récit.
Ce qu'elle a présenté m'avait plu, vu qu'elle avait parlé, l'autre fois, la compréhension des mots. Avant de parler, tu dois comprendre le sens des mots que tu dois employer.
Gervais Lakosso, directeur du festival, explique le choix des établissements scolaires pour ces manifestations culturelles.
Si nous sommes venus faire la cérémonie d'ouverture au lycée de Miskine, c'est un message à l'endroit des jeunes. Nous sommes venus vers eux pour leur dire que leur identité, ce n'est pas Facebook, ce n'est pas WhatsApp, ce n'est pas les séries qu'ils regardent à la télé, mais c'est eux-mêmes, c'est-à-dire leur culture. Ce sont les contes, ce sont les sagesses de notre pays. Parce que la culture, c'est notre réalité.
En plus du conte, plusieurs autres manifestations sont prévues. Il s'agit notamment d'un concours de conte réservé aux enfants de moins de 13 ans et un concours Miss Parole pour ceux dont l'âge varie de 15 à 19 ans. Ce mercredi, c'est le lycée de Gobongo dans le 4e arrondissement qui accueille les manifestations.
Il faut que je m'occupe de ces 8 filles, mais ça c'est 4.
Actualité africaine en bref, fin hier au Congo-Brazzaville du dépôt des candidatures aux prochaines élections législatives.
Initialement prévue pour le 31 mai 2022, la clôture des dossiers des candidats aux législatives et locales du 10 juillet a été finalement prorogée jusqu'à hier à minuit. Ceci pour permettre aux retardataires de s'inscrire. Pour cette députation, il y aura 151 sièges à pourvoir contre plus de 1450 conseillers locaux et municipaux à élire. La diaspora est très attendue pour ces élections.
Et puis la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, réagit suite à l'annonce avant-hier de la junte malienne qui fixe la durée de la nouvelle transition à 24 mois.
Oui, cette organisation regrette que la décision ait été prise durant les négociations. Selon les dirigeants de cette institution sous-régionale, ils se préparent toujours pour le sommet d'Accra prévu pour le 3 juillet prochain. La page porte de cette édition est présentée par vous. Bienvenue Bello, bienvenue, bonjour.
Bonjour Eda, bonjour à tous.
Ouvrons cette page avec l'athlétisme. Le championnat d'Afrique des seniors démarre aujourd'hui en île Maurice.
Deux athlètes représentent la République centrafricaine. Il s'agit de Belvia Boyfini en 5000 mètres et Franky Moto en 800 mètres. Le 22e championnat d'Afrique d'athlétisme se déroule du 8 au 12 juin 2022 à Saint-Pierre à Maurice. L'édition précédente, programmée en 2020 puis 2021 à Alger puis à Lagos, a été annulée en raison de la pandémie de Covid-19. Les épreuves se déroulent au sein du complexe sportif de Côte d'Or.
Football, l'Olympique Réal de Bangui disputera ici à Bangui la deuxième édition du play-off aux côtés de l'AS Petroca de l'OAM, Trésor Djumbomou et Racing Club de l'EGTB de la Lobaye.
Cette compétition qui devrait initialement démarrer ce 8 juin est reportée pour des raisons techniques selon la Fédération de football. Octave Mamata Diallo, directeur de cabinet à la Fédération centrafricaine de football, est avec Claire Assambadinga.
Ce n'est pas un retard, c'est une question de report. Nous avons des problèmes techniques Le play-off de cette année est placé sous la supervision administrative de la FIFA. Donc, en fonction des relations que nous avons avec la FIFA, nous avons reçu de cette hiérarchie-là le report de cette activité. Il y aura donc une nouvelle date, mais qui n'est pas encore à confirmer, parce que je ne peux pas donner cette date-là, parce que justement, elle est à confirmer. Ça devait être dans les tout prochains jours. Je dis tout prochains jours.
Football encore, les éliminatoires CAN-Côte d'Ivoire 2023, les fauves locaux et une partie du staff technique sont arrivés aujourd'hui à Bangui.
Ils rentrent au pays après les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023. Les deux matchs se sont déroulés à Luanda en Angola. Durant la première journée, la RCA a perdu 2-1 devant l'Angola. Elle a résisté devant le Ghana sur un score nul d'un but partout. La République centrafricaine est donc classée troisième dans le groupe E avec un point. Le Ghana est premier avec 4 points, suivi de l'Angola, 4 points aussi.
La page sport met un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir écouté. Tout de suite, la version en sango.